Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une allergie, j'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je ne prends pas de champagne. Je déteste le caviar. Le champagne, ça me donne mal à la tête.
Salut, c'est Thomas Rozek. Régulièrement dans ce podcast, on s'intéresse à ce que le numérique et la part grandissante qu'il prend dans nos vies à tous changent dans nos habitudes et nos perceptions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles ou sociales. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, on vous proposera un épisode spécial qui remet en perspective tous ces différents aspects. En attendant, derrière ces éléments, il y a en sous-texte une interrogation. Est-ce que désormais, tout baigné que nous sommes dans un monde de plus en plus dépendant du numérique, le vrai luxe ne serait pas de pouvoir s'en extraire ? Est-ce que le fait de parvenir à s'affranchir ne serait-ce que quelques heures par jour des écrans et des applis n'est pas devenu un nouveau signe extérieur de richesse et donc un marché juteux pour quelques entrepreneurs au nez creux. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, posons les termes de la réflexion, parce que derrière le concept parfois un peu flou de luxe se cache un certain nombre de réalités et tout un ensemble de constructions socio-culturelles que des chercheurs s'emploient à disséquer. C'est le cas de Marc Abeles, il est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Je l'ai appelé pour lui demander très simplement, le luxe, c'est quoi ?
En réalité, la question du luxe, Elle donne lieu à un certain relativisme, parce que chacun peut dire que telle ou telle chose est de luxe en fonction de sa perception, oui, des attentes et tout, mais il y a quand même, disons, des critères. Pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est je définirais le luxe, en fait, comme quelque chose, comme ce qui n'a pas de prix, ce qui dépasse, en fait, l'ordre de la valeur simplement marchande. C'est-à-dire, quand on dit ce qui n'a pas de prix, ça veut dire aussi ce qui coûte évidemment généralement très très cher, mais il y a quelque chose qui se situe dans une sorte d'au-delà et qui a souvent été d'ailleurs perçu comme relativement subversif dans la mesure où on associait le luxe à l'idée de luxuriance, voire à l'idée de luxure justement. Donc il y a toujours eu un débat au fond sur la nature du luxe et sur les valeurs, en fait, que véhiculait le luxe. Certains considérant que ces valeurs étaient des valeurs négatives et considérant que le luxe, finalement, ça devait être dénoncé et que c'était quelque chose qui était, au fond, pas moral, immoral, etc. Donc, c'est comme ça. Pour moi, le luxe, la question du luxe, elle tourne autour de cela. Et évidemment, il y a tout un ensemble de choses qui sont de l'ordre sociologique, c'est-à-dire type de consommation, quelle est une consommation de luxe, qu'est-ce que c'est, donc c'est lié à une idée de, il y a une idée de rareté qui est liée au produit de luxe, ça paraît très, très, très important. Il y a une idée de futilité qui est liée au luxe, c'est-à-dire quelque chose qui est inessentiel, chose n'aura pas un besoin immédiat. Donc il y a une opposition entre le luxe et ce qui est de l'ordre du besoin, de la nécessité. Hein, on a besoin de nourriture pour manger, et on n'a pas besoin nécessairement de caviar, etc. Donc ça, c'est une des idées qui sépare un peu le luxe. Le luxe étant lié à toutes sortes de signes aussi, il y a tout un aspect, je dirais, sémiotique dans le luxe, a des codes pour utiliser certains produits considérés comme de luxe. Il faut déjà faire partie d'un certain monde, il faut comprendre en quoi ce tissu, etc., est un produit de luxe, et ça demande une certaine culture. Donc il y a toute une culture autour du luxe qui n'est pas l'apanage de la majorité des gens. On peut comme ça expliquer au fond que le luxe est du domaine plus de la culture que du domaine de la nature.
Une des dernières grandes mutations de la mondialisation, c'est évidemment la grande part que prend le numérique dans nos vies. Ouais. Comme nos vies sont de plus en plus dématérialisées, est-ce que il existe maintenant un luxe immatériel ?
Traditionnellement, il y a toujours eu un aspect immatériel dans le luxe. Je crois, par exemple, si vous prenez la question de la mode et de la haute couture.
Oui.
Il y a un aspect immatériel qui est par exemple l'association de certains produits à des noms. Par exemple, le nom de Chanel, pour un exemple très banal. Enfin, c'est ça qui valorise totalement tel ou tel tissu, enfin, telle ou telle robe, etc. C'est-à-dire que dans la simple considération d'un produit qui est un produit matériel, disons, il y a toute cette dimension immatérielle qui va lui donner une valeur considérable. Oui. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, la notion d'immatérialité, elle est assez présente en fait dans le cas du luxe, à l'opposé de certains produits qui au contraire ne sont valorisés que par rapport à leur utilité immédiate, on peut dire. Maintenant, ce que je me dis, c'est pour moi le luxe, il doit être à un certain moment objectivé, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui ait une certaine consistance,
oui,
et qu'on puisse dire sur un certain nombre d'années ou une certaine période que c'est identifiable même à quelque chose qu'on peut nommer même. Vous voyez, c'est pour ça que je pense à la haute couture, je pense à ce qu'on peut dire à propos des marques et tout ça. Et alors est-ce qu'on a dans ce domaine-là l'équivalent C'est des questions, honnêtement, là je...
Non, j'entends bien. Du coup, moi, ce que je me demande, c'est
oui.
est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le luxe, mais alors sans doute dans une partie évidemment réduite, oui, de l'univers du luxe, dans l'histoire, des produits qui ont démarré en étant identifiés comme étant des produits de luxe, là je parle de produits, on va dire, concrets, qu'on peut physiquement toucher, et qui, justement, au fil du temps, n'ont plus été considérés comme étant des produits de luxe. Ça, j'imagine que ça existe.
Oui, tout à fait. Non, mais vous n'avez pas tort. Je pense, par exemple, le thé,
ouais,
on a un produit qui a été vraiment aussi une très grande rareté, etc., réservé à l'élite, et puis qui est devenu... le quotidien de l'ouvrier britannique très tôt, finalement, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans ce cas-là, oui, vous avez raison. Il y a une sorte d'obsolescence, en quelque sorte, de ce luxe qui a disparu en tant que tel. C'était plus du luxe. Il y a beaucoup de produits de ce genre. Ça oui, on peut dire.
En France, le droit à la déconnexion devrait soulager de nombreux travailleurs. Ce droit autorise à ne pas répondre à ses courriels ou messages professionnels hors temps de travail. Depuis le 1er janvier, la loi travail oblige les entreprises de plus de 50 salariés à ouvrir des négociations sur ce droit. Désormais, si ce droit à la déconnexion n'est pas respecté par son employeur, le salarié devra saisir les prud'hommes en apportant la preuve que son temps de repos n'a pas été suffisant.
Si le monde numérique ne coche pas toutes les cases des définitions du luxe qu'on a rapidement évoquées à l'instant, la capacité qu'on a de s'en passer, de se permettre de se dégager, même temporairement, des outils numériques, c'est pour le coup un indicateur intéressant de statut social. C'est assez concrètement un luxe auquel tous les salariés n'ont pas réellement accès, même si la loi prévoit désormais un droit à la déconnexion inscrit dans le Code du travail. La meilleure preuve de son caractère luxueux, c'est que la déconnexion, justement, c'est devenu un secteur de conquête commerciale, notamment, et c'est toute l'ironie, pour des boîtes issues du numérique. J'ai demandé à ma consoeur Lucie Ronfaux du Figaro, une habituée de ce podcast, s'il y avait désormais un marché de la déconnexion.
Alors un marché du luxe, je ne sais pas, mais en tout cas un marché de la déconnexion en soi, oui. Il est encore un peu balbutiant, mais il a bien augmenté ces dernières années. Alors ça a commencé, c'est assez marrant, parce qu'en fait ça a commencé plutôt par un business d'indépendants, de consultants, personnes qui font payer 100 dollars, 200 dollars les cours de déconnexion. Ça a commencé aussi par les colonies de vacances vacances sans portable. Je sais pas si vous, tu vois ce que c'est, mais enfin c'est des colonies de vacances. Littéralement, c'est des adultes qui vont et qui s'engagent à ne pas utiliser leur portable, etc. Donc
des
ça,
stages
ça existe.
De détox numérique.
Voilà, stages de détox numérique qui sont généralement réservés à des gens qui sont effectivement bien intoxiqués. Donc ça existe depuis 5-6 ans assez facilement. Sauf que sont entrés dans la danse les premiers concernés, en l'occurrence les grandes boîtes du numérique. Et ces deux dernières années, Google, Facebook, Apple ont tous lancé des options en fait relatives à la déconnexion. Alors c'est des options gratuites, hein. En fait c'est des paramètres qui ont été ajoutés à leurs produits. Donc par exemple dans le cas de Facebook, sur Instagram, on peut mettre une limite au-delà de laquelle on va avoir une petite pop-up qui dit attention, vous avez passé 15 minutes par jour sur Instagram, par exemple. Enfin, moi c'est la limite que j'ai mise, par exemple. Pour Apple, sur les iPhones, on peut aller consulter dans ses paramètres non seulement le temps passé, mais aussi les types d'applications utilisées. Et c'est assez fin d'ailleurs, on peut demander le nombre de temps qu'on peut utiliser sur chaque type d'application. Par exemple, on peut mettre temps illimité sur les mails, mais temps limité sur les réseaux sociaux, au hasard. Pareil, YouTube, c'est un truc similaire, c'est une limite de temps, etc. Donc voilà, beaucoup plus de d'outils pour surveiller sa consommation. La question de savoir si c'est efficace et si c'est pas aussi un peu hypocrite, hein, parce que c'est quand même assez intéressant que ça soit les premiers concernés qui essayent de nous désintoxiquer d'eux-mêmes, en un sens. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le fait que ces outils soient intégrés dans les paramètres, soient intégrés dans le menu de ces appareils, de ces sites, ça veut dire qu'on ne quitte jamais ces sites, on ne quitte jamais ces appareils. J'ai besoin de Facebook pour comprendre à quel point je suis accro à Facebook.
Oui, il y a une forme de contradiction intrinsèque. Et au-delà des GAFAM et des grosses boîtes de la tech, il y a maintenant des petites entreprises, des startups qui se lancent sur ce marché de la déconnexion, en tout cas sur ce marché de la gestion de nos vies numériques. Je pense notamment à une boîte comme Superhuman qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Et ça s'est d'ailleurs assez mal passé pour elle, son démarrage. Je ne sais pas si tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé.
Oui, alors Superhuman, c'est un énième service qui prétend révolutionner l'email, hein, qui est un gros sujet pour les professionnels en général, parce qu'on est tous sur nos emails tout le temps. Et donc, c'est un service qui, de mémoire, demandait $30 par mois pour, en gros, passer beaucoup moins de temps sur sa boîte mail, avec des algos dans tous les sens, pour trier les emails, etc. Donc, ça faisait je crois que ça a été lancé il y a assez longtemps, mais ça a bien buzzé ces derniers mois. Ils ont fait une levée de fonds, beaucoup d'articles, etc. Sauf que en fait, je crois que c'est un expert en cybersécurité, hein, qui a remarqué que, alors oui, certes, Superhuman nous épargnait le temps dans nos boîtes mail, mais que Superhuman c'était aussi une boîte en fait qui utilisait beaucoup d'outils assez anti-vie privée en fait, oui. Notamment. Alors je sais pas si ceux qui nous écoutent le savent, mais il y a des moyens en fait de savoir si, pour une entreprise, si une personne ouvre ses mails.
Oui.
Pour ça, on met ce qu'on appelle un petit pixel, en fait, qui est chargé comme une image. Et si je vois ce pixel, donc si j'ai ouvert le mail, ça envoie en fait une réponse.
Notification, ouais. Ouais, voilà.
Et donc ça, c'est des trucs qu'on peut désactiver. Il y a des moyens de désactiver normalement. Par exemple, sur Google, il suffit de demander, sur Gmail, il suffit de demander à pas charger les images. Sauf que dans le cas de Superhuman, c'était par défaut.
Ouais.
On n'avait pas le choix en fait, on n'avait pas le choix, c'était pas transparent, donc il y a eu le coup du pixel, mais il y a aussi eu plein d'autres trucs qui ont montré qu'en fait, oui, c'était une boîte qui voulait notre bien-être, mais alors qu'est-ce que c'est le bien-être? Donc mon bien-être, c'est passer moins d'une demi-heure par jour sur mes mails, mais d'être traqué dans tous les sens. Bon.
Quelque part, ces solutions informatiques, j'ai l'impression qu'elles s'adressent quand même un public assez restreint, quelques happy few, voire plutôt des chefs d'entreprise, plutôt des patrons. Ça reste encore quelque chose qui ne s'est pas beaucoup démocratisé.
Non, alors déjà la Silicon Valley adore se déconnecter, ce qui est bien un signe que c'est pas quelque chose de très grand public. Il y a eu tout un mouvement mené notamment par Tristan Harris, qui est un ancien ingénieur de Google, qui a été l'un des premiers à adresser le problème de la déconnexion, enfin de l'addiction en tout cas, de l'addiction aux réseaux sociaux, etc. Qui a montré que ces réseaux utilisaient beaucoup ce qu'on appelle des dark patterns, qui sont en fait des techniques de design pour vous rendre accro, hein, pour vous pousser à... La raison pour laquelle parfois vous entendez des fausses vibrations dans vos oreilles en pensant que c'est votre portable, mais en fait c'est parce que Google ou Apple savent très bien nous rendre accro. Donc c'est venu de ce mec-là. Il y a beaucoup d'anciens ingénieurs, d'anciennes personnes de Silicon Valley qui ont dit attention,
des évadés d'une secte,
voilà,
un peu,
on a construit des monstres, etc. Et ces discours ont commencé à se propager au sein même de ces boîtes.
Ouais.
bah, typiquement, Tristan Harris, maintenant, il donne des cours à Google, ce qui est assez assez ironique en un sens. Et alors, cette tendance à la déconnexion, typiquement, un exemple que je cite souvent, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, il voulait pas que ses gamins aient d'iPhone.
Ouais.
Il voulait pas. Et ça, quand on regarde les écoles de la Silicon Valley, les écoles super privées qui coûtent extrêmement cher, les gamins, on leur donne un crayon, un papier et des jouets en bois. C'est assez étonnant quand même, parce que c'est des gamins dont les parents construisent ses propres outils.
Ouais.
Et dès qu'on sort un peu de cette bulle privilégiée, même par exemple la déconnexion, les outils qu'ont mis en place Facebook, etc., moi autour de moi, je suis parisienne, tous mes amis parisiens s'y sont mis, moi, à partir du moment où je suis sortie de ma petite bulle parisienne, etc., je pense pas que mon père par exemple ait entendu parler de ces outils, alors qu'il est tout aussi inquiet que les autres de cette addiction. Mais ces outils s'adressent pas forcément à lui, parce que déjà c'est des outils qui sont difficiles à trouver, hein, ouais. C'est dans les paramètres, etc. Et puis je sais pas exactement pourquoi est-ce que ça n'atteint pas plus de personnes, mais je pense que c'est fait en sorte. Facebook n'a pas intérêt à ce qu'on devienne toxique de Facebook, hein. Donc Facebook peut calmer les influenceurs entre guillemets qui sont les journalistes, les ingénieurs, en leur donnant des outils pour se calmer. Mais de l'intérêt de Facebook, c'est que la majorité, l'immense majorité de ses utilisateurs restent accros et aillent sur son service.
Ça entre pour le coup en contradiction avec le droit français, notamment le droit du travail, qui a évolué ces dernières années. Alors ça s'est fait de manière assez discrète. Maintenant, le droit à la déconnexion est inscrit dans le code du travail, mais il reste extrêmement flou. Je crois que c'est laissé à la libre acceptation, à la libre interprétation des entreprises.
Oui, alors en théorie, le droit à la déconnexion, c'est notamment, ça porte beaucoup sur l'email, notamment le fait que un employeur ne peut pas essayer de contacter un employé au-delà de je ne sais plus quelle heure, donc ça doit être 20h ou 21h par mail, etc. Effectivement, oui, il y a un vrai flou artistique sur la question. On peut aussi se poser la question de c'est quoi être connecté et c'est quoi être déconnecté, hein, parce que il y a aussi Moi, à titre personnel, je ne suis pas persuadée que le fait d'être déconnectée du travail, mais connectée constamment à Twitter, Instagram, etc., ça me fasse tant du bien que ça. C'est différents types de pression, mais ça reste de la connexion. Et on est dans une connexion permanente. Et c'est pour ça qu'au travail, maintenant, on attend de nous des réactions. Enfin, c'est le même mécanisme qu'avant, quand on envoyait un SMS. Si tu ne me répondais pas pendant 4 heures, j'en avais rien à faire. Ça ne m'inquiétait pas, c'était normal. Maintenant, j'envoie un message via Messenger ou via WhatsApp. Déjà, je sais si le message est arrivé chez la personne, je sais si le message a été lu par la personne, je vois si la personne est en ligne ou pas. Si la personne est en ligne, qu'elle a lu mon message mais qu'elle me répond pas, je vais me dire, bon, est-ce qu'elle me fait la gueule, est-ce qu'elle m'en veut, est-ce qu'elle veut pas me répondre, est-ce qu'elle m'ignore, etc. etc. Et ça, on en revient encore à la responsabilité des plateformes qui nous ont donné des tonnes d'outils pour espionner les autres, en fait, sauf qu'en espionnant les autres, ben, on se fait du mal à soi-même.
On est quasiment à deux doigts d'un problème de santé publique, en fait. Mais j'ai pas l'impression que ce soit adressé de cette manière-là encore.
Oui, c'est vrai. Alors, à ma connaissance, en France, même nulle part, il y a pas trop de... C'est compliqué, hein, de savoir à quel point les réseaux sociaux, les grandes plateformes nous font du mal. Dans le sens où déjà, c'est consenti, oui, de la même manière que la clope, c'est consenti. Mais il n'y a pas d'études sur le long terme. C'est très, très récent comme changement. Hein, oui. Facebook, ça a 15 ans. Hein. Donc, 15 ans... Le temps qu'on s'inquiète un peu de ces trucs, on n'a pas eu le temps de faire des vraies études. Et par exemple, le cas qui intéresse tout le monde et qui inquiète tout le monde, c'est les enfants. Parce que là, on est en train de faire grandir la première génération d'enfants qui est exposée depuis l'année zéro. Et on ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce que les écrans vont faire à leur cerveau. Il y a des spécialistes qui disent que les cerveaux, ça évolue de toute manière et que les gens qui sont nés il y a 20 ans n'ont pas le même cerveau que les gens qui ont le cerveau aujourd'hui et que ce n'est pas grave. Et d'autres qui disent qu'on va faire les enfants débiles ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en même temps, est-ce qu'on a envie d'une politique publique, est-ce qu'on a envie d'une politique de santé publique sur le sujet, est-ce que j'ai envie que, de la même manière que maintenant le Bucket Club coûte, je ne fume pas, mais très cher, est-ce que j'ai envie que le gouvernement me force ça ne pas aller plus de tant de temps sur Facebook. Et en quoi est-ce que Facebook c'est plus dangereux que n'importe quel site français, par exemple? Je sais pas, peut-être que aller sur Doctissimo tous les jours, ça me fait autant de mal qu'aller sur Facebook tous les jours. Et peut-être qu'en fait, aller sur Instagram, si j'en ai une utilisation raisonnée et que j'ai une réflexion dessus, ça me fait pas tant de mal que ça. C'est compliqué.
« Je serais tenté d'ajouter qu'il va falloir inventer une éducation à la déconnexion. Ça s'inscrit d'ailleurs sans doute dans l'idée globalement de l'éducation au numérique qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans plusieurs épisodes au cours de cette saison. Merci à Marc Abelès et Lucie Ronfaux pour la réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.